tous les homicides commis au Québec, incluant les affaires non élucidées, vues à travers les archives nationales et les documents légaux. Bienvenue sur Mémoire d'archives. Alors bonjour, aujourd'hui on poursuit toujours évidemment dans le résumé de plusieurs cas de féminicide ou si vous voulez d'assassinat de femmes par des conjoints suicidaires ou non suicidaires. Le premier cas d'aujourd'hui est assez étrange. Dans le sens que je l'ai classé dans les homicides par un conjoint suicidaire, mais ça pourrait être finalement le cas qui est l'exception qui confirme la règle. Alors, tout d'abord, la victime s'appelait Hélène Saint-Pierre, elle avait 22 ans. Donc, on aura remarqué aussi même que la plupart ou la majorité des victimes, sauf quelques exceptions, sont âgées généralement en bas de 40 ans, donc sont assez jeunes. Et ça se passe le 3 novembre 1936. Ce jour-là, Hélène Saint-Pierre, elle travaillait. Là, donc, on rentre dans une époque moderne, si on veut. Même si on est encore en 1936, les femmes commencent à être au travail. Donc, c'est quand même bien. On l'a vu aussi dans l'affaire de Hilda Echeblay, là, avec Valéda Lafontaine, qui revenait de l'usine au moment où, malheureusement, Hilda Echeblay lui a tiré dessus. Alors, elle travaillait dans une pharmacie de Montréal et elle terminait son quart de travail à 18h30. Et elle était préposée, en fait, au comptoir des films photographiques. Donc, je pense que, pour avoir connu un peu cette période-là, je pense que ici, ce qu'on voulait dire, c'est que c'est elle qui développait les films, dans le fond. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile, hein? On prend les photos, on a le résultat tout de suite. Mais à l'époque, et oui mes amis, c'était un petit peu plus laborieux, on prenait nos photos, on ne voyait pas le résultat de nos photos, et il fallait certaines connaissances aussi pour choisir les films, soit à l'intérieur ou à l'extérieur, parce qu'il fallait un certain temps, plusieurs jours, pour faire développer les films, et quand on avait les résultats en photo papier, si on veut, des fois, si on avait manqué notre coup, il était trop tard. On était plusieurs jours, donc c'est arrivé plusieurs fois qu'on partait en vacances, puis on revenait de vacances, puis on n'avait aucune photo, on les avait toutes ratées. Alors voilà la belle époque. Mais tout ça pour dire qu'Hélène Saint-Pierre travaillait dans ce domaine-là, je pense. Et après son corps de travail, on ne l'a plus jamais revue vivante par la suite. Sauf que la particularité ici, c'est que Hélène était la nièce du chef de police de Montréal à l'époque qui s'appelait Armand Brodeur. C'était une grosse pointure là, dans les enquêteurs de l'époque. Donc, on peut dire que j'imagine que tout a été fait pour la retrouver. Si son oncle était chef de police de la ville, surtout la plus grande ville au Québec, ben je pense que tout a été fait là, pour la retrouver par la suite. On l'a décrit comme une blonde très élancée et on la disait affable et distinguée. Quelques jours après la disparition, il y a un scaphandrier de la police qui a fouillé le fond de la rivière Jésus, près de Saint-Eustache, dans l'espoir évidemment de retrouver le corps d'Hélène. Mais semble-t-il que les jours passaient et plus le temps avançait et moins on trouvait d'indices. À la fin du mois de novembre, donc là on parle de la disparition le 3 novembre 1936, à la fin du mois, la police était même tellement désemparée devant le peu d'éléments, le peu d'indices, qu'on a offert une récompense à toute personne susceptible d'apporter de l'information crédible dans cette affaire-là. Alors, normalement, quand on demande ou qu'on offre une récompense pour obtenir des indices comme ça, souvent, c'est parce que, justement, on est à court d'éléments importants. On n'en parle pas souvent, parce qu'évidemment, souvent, il nous manque des détails, mais la victimologie, qui est l'étude, dans le fond, des habitudes ou, si on veut, dans le fond, c'est la biographie de la victime, donc tout ce qu'elle est comme personne, ses fréquentations, ses habitudes et tout ça, ça permet parfois de découvrir des pistes puis de les explorer par la suite. Donc, dans ce cas-ci, la victimologie a permis de comprendre qu'Hélène allait bientôt se marier à un certain Lucien Poisson, qui, lui, s'était déjà installé à Chicago. Donc, on imagine que sa vie était toute tracée là, dans cette direction-là. Mais, en septembre, donc, juste 2 mois avant sa disparition, Hélène avait fait la rencontre d'un dénommé Henri-Émile Ficiot, un jeune homme de 29 ans. Et selon une amie d'Hélène, c'est à bord d'un train qui revenait de Chicago qu'elle avait fait la rencontre de Ficiot. Évidemment, comme vous pouvez vous en douter, ben, Ficiot a été arrêté assez rapidement par les policiers. On voulait comprendre. Mais tout de suite, il s'est retranché derrière un mutisme complet, ce qui est assez étrange. Parce que normalement, ce qui arrive, c'est que quand on est innocent, on ne se renferme pas dans le mutisme et on se met pas en petite boule dans un coin puis on garde le silence. Non, non, on va se débattre et puis non, on dit « Hey, ça n'a pas d'allure, non, non, c'est pas moi qui a fait ça, puis ci, puis ça. » Donc, normalement, quelqu'un qui est innocent, règle générale, je ne veux pas dire que c'est le cas de tout le temps, mais ils vont se débattre puis ils vont combattre, dans le fond, pour leur innocence. Mais dans ce cas-ci, Ficiot fait tout le contraire, donc c'est pourtant lui aussi qui a été vu le dernier en compagnie d'Hélène, c'est-à-dire au cours de la soirée du 3 novembre, donc le jour même de la disparition. Fait que ça commence à sentir la soupe chaude pour lui. Et de plus, en plus de tout ça, sa voiture à lui, on l'a retrouvée abandonnée sur le boulevard Descaries. Et sa chemise aussi était tachée de sang. Donc ça commence à faire des éléments. Là. Aussitôt qu'on a arrêté Ficiot, là, les policiers se sont mis à avoir plusieurs éléments à étudier. Donc, et ces éléments-là, comme vous l'avez compris, ben, pointaient en direction de Ficiot. Sur le siège de l'auto, les policiers ont même retrouvé d'autres traces de sang et aussi des cartouches de calibre 22. Donc, on a retrouvé des cartouches, mais aucune arme. Et on pensait ici que ça avait été... qu'il était question d'un revolver, mais l'arme n'a jamais été retrouvée. Pour sa part, ben, Ficiot a quand même prononcé quelques mots, puis il s'est contenté de dire qu'il ne se souvenait de rien. Parce que, disait-il, il avait trop bu. Ben oui, une belle échappatoire, encore une fois. Donc, selon sa version à lui, lorsque Hélène avait terminé son corps de travail à 18h30, lui, il serait venu la voir pour lui proposer d'aller au cinéma. Du moins, c'est sa version. Mais selon une autre témoin, Ficiot aurait même proposé le mariage à Hélène. Ah, donc, voyez-vous, là, il était censé épouser Lucien Poisson, un gars qui s'était établi à Chicago. Et là, on aurait lui qui, M. Ficiot, qui lui aurait peut-être proposé. Mais ça ne veut pas dire que Hélène était intéressée envers M. Ficiot. Il faut le comprendre comme ça. Et justement, selon la même témoin, ben Hélène avait décliné son offre. Alors, est-ce qu'on est en présence ici d'un amant qui ou d'un homme qui fait une fixation sur une femme qui finalement veut rien savoir de lui? Et comme je l'avais dit au début, je crois, dans la première ou la deuxième balado de la série Féminicide, il faut aussi compter les conjoints, les ex-conjoints, et ceux qui se croient être le conjoint d'une femme sur laquelle ils font une fixation. Parce que ça arrive aussi, eux se croient être le conjoint alors que la fille veut rien savoir, puis finalement, il ne s'était rien passé du tout. Et ce qui va dans la même veine aussi, c'est que l'employeur du suspect, donc le boss de M. Ficiot, il a découvert 3 lettres écrites, lui, de la main de Ficiot. Et la première était adressée à sa fiancée, qui n'a pas été identifiée malheureusement. Donc, vous aurez compris que la piste la plus sérieuse ici pointait vers celle d'un meurtre suivi d'un suicide. Là, je dis suicide, mais selon les théories de l'époque, en tout cas ce qui a transparu de cette affaire-là, c'est qu'il aurait manqué son suicide, donc il aurait tué Hélène, Puis lui, il se serait manqué ou il aurait choqué finalement à la dernière minute, il aurait changé d'idée. Et l'ironie dans tout ça, c'est que puisqu'on manquait de preuves envers lui, et bien malheureusement, diront certains, la police a dû remettre M. Fissiot en liberté. Mais par contre, l'histoire ne se termine pas là. Oui, en effet, l'affaire va rester non élucidée. Mais il y a quand même un épilogue important à ce dossier-là. C'est que le 16 juillet 1937, donc 6 ou 7 mois à peu près après la disparition d'Hélène, Fissiot a été retrouvé pendu dans la cave de la résidence de son patron, qui était situé au 156 rue Bloomfield, à Outremont. Dans un journal, on peut même lire le compte-rendu qui suit, et j'ouvre les guillemets, « Il était apparemment mort de strangulation, une corde attachée à un tuyau en fer le retenant par le cou. Dans sa bouche, l'on a trouvé une immense tresse de cheveux de femme de couleur châtain, ressemblant quelque peu aux cheveux trouvés dans son automobile au cours des perquisitions faites par la Sûreté municipale en collaboration avec des agents de la Sûreté provinciale. » Et je ferme les guillemets. C'est quand même particulier. C'est la première fois, jusqu'à maintenant, dans tous les cas que j'ai étudiés, qu'on trouve une particularité comme ça, c'est-à-dire quelqu'un qui se suicide et on le retrouve avec une mèche de cheveux de femme dans la bouche. Qu'est-ce que ça signifiait pour lui? Probablement qu'il a été le seul à le savoir. On peut spéculer tant qu'on veut, mais je pense que c'est assez, ça va rester du domaine du mystère. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'il a été retrouvé étendu sur le dos, une corde à linge autour du cou et un escabeau qui se trouvait près de lui. Dans son appartement, on a aussi retrouvé plusieurs mèches de cheveux de femme. Donc, il n'y en avait pas seulement dans la bouche, il semblait les collectionner, ce qui est assez étrange. Et c'est justement ce qui a laissé croire que Fissiot, donc le suicidé, ça donnait une certaine forme de fétichisme. Qu'est-ce qu'il faisait avec ça et comment se procurait-il aussi ces mèches de cheveux? C'est assez étrange. Donc, justement, parce que c'était étrange, eh bien, vous me connaissez maintenant, j'ai commandé l'enquête de coroner et je l'ai reçue le 10 novembre 2022. Et ce qu'on constate dans ces documents d'archives, c'est que, selon les résultats de l'autopsie, on note que Fissiot était ivre au moment de son suicide, ce qui n'est pas vraiment surprenant. Il y en a des fois qui vont boire un petit coup pour se donner le courage de le faire. Et je mets ici « courage » entre guillemets, parce que est-ce que ça prend du courage pour s'enlever la vie ou du désespoir ou de la lâcheté? C'est ça, je vous laisse l'interprétation. Il y a Paul Lapointe qui accompagnait le frère de Fissiot au moment de la découverte, qui a effectivement corroboré la présence d'une tresse de cheveux dans la bouche du pendu. Donc, ça semble vrai, ça se confirme, donc c'est pas juste une banalité lancée comme ça par les journaux de l'époque, donc le rapport du coroner le confirme. Par contre, ce qu'on ajoute dans l'enquête du coroner, c'est que sur la table de la cuisine, il y avait aussi un gros parquet. Je pense que ici c'est une erreur d'orthographe, donc il faudrait lire plutôt un paquet contenant des cheveux de différentes couleurs. Qu'est-ce que cela pouvait signifier? Ça revient à dire que, comme tantôt, dans le fond, ça confirme ce que les journaux avaient dit. Et voilà, est-ce qu'il était fétichiste? C'est quoi? Qu'est-ce que ça représente cette affaire-là? C'est vraiment étrange. Et on comprendra que probablement la police n'a jamais... est-ce qu'ils ont gardé premièrement ce sac-là, ces mèches de cheveux après pour l'enquête? J'en ai aucune idée. Est-ce qu'ils ont poussé l'investigation à savoir s'il harcelait des femmes pour qu'elles lui donnent des mèches de cheveux? On le saura jamais. Ou peut-être à l'ouverture du dossier, s'il y en a un, il faut attendre normalement 100 ans, donc en 2036-37 à peu près. Mais bref, ce que l'enquête de coroner me donne, c'est ça. Ça m'en dit pas plus. Quant à Yves-André Fissiot, donc son frère, lui a déclaré au coroner, j'ouvre les guillemets, Mon frère était célibataire. Jamais il n'a parlé de s'enlever la vie. Récemment, il avait eu une période de découragement. La dernière fois que j'ai vu mon frère en vie, c'est le 15, entre 2 et 4 heures. Il était fatigué. Il revenait de New York. Et je ferme les guillemets. Et malheureusement, le document du coroner ne fait aucune mention du meurtre d'Hélène Saint-Pierre. Donc, est-ce qu'on a approfondi ces pistes-là? J'ose croire que oui, mais qu'à l'époque, toute l'explication, la psychologie au niveau de l'enquête était pas populaire tellement, et même absente complètement. Donc, on a peut-être pas chercher une explication non plus à savoir pourquoi il collectionnait des tresses de cheveux. Alors, voilà, ça reste étrange. Comme je le disais au début, bien, je garde le classement de ce dossier-là dans les homicides domestiques par un conjoint suicidaire. Ça n'a pas été prouvé qu'Hélène avait une intention de sortir avec lui, sauf que, vu que lui se sentait comme un conjoint. Mais vous aurez compris que c'est le cas, un cas vraiment particulier, parce que là, on n'a jamais retrouvé le corps d'Hélène Saint-Pierre, mais c'est clair qu'elle a été tuée en dehors de chez elle, donc ça change toutes les données. Dans le fond, ça va à l'encontre un peu de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, sauf l'arme à feu, comme on a vu l'arme à feu qui est beaucoup utilisée par les conjoints suicidaires dans une proportion assez importante. Donc, il y a à peu près juste ça, mais le reste, c'est assez étrange. Mais, bon, malgré tout ça, il n'y a pas de mise en scène, vraiment. Peut-être au niveau du suicide de M. Fissio, mais pour le reste, on ne peut pas prouver qu'il y a eu une quelconque mise en scène, d'autant plus qu'on n'a jamais trouvé le corps d'Hélène. Alors, voilà. Pour le prochain féminicide, on se transporte au 16 juin 1937 à Verdun, donc toujours dans la région de Montréal. Cette fois-ci, c'est une femme de 38 ans, Elizabeth Armstrong, qui a été assassinée à coups de marteau cette journée-là, rien de moins. Donc, si elle cognait des clous, ben, c'était le moment idéal. Le lendemain, le journal La Patrie, lui, annonçait que l'assassin s'était suicidé quelques minutes après en se jetant dans le canal Lachine ou dans les eaux du fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Ville-Lasalle. Mais le suspect, en réalité, ce qu'on a découvert par la suite, il s'appelait Charles William Hurd, qui était l'amant de la victime, donc son conjoint. Il aurait proféré des menaces plusieurs fois assez inquiétantes là, envers elle, et au point de dire qu'il en avait assez de la vie aussi, donc il était suicidaire, c'est assez clair. Quant à Elizabeth, elle avait confié à plusieurs personnes aussi sa crainte de se retrouver seule avec lui. C'est pas rien. Donc si, quand on commence à avoir peur de se retrouver toute seule avec son amant, il y a un problème. C'est assez mal commode quand on veut regarder un film un soir à deux sur un divan, puis on a peur d'être avec l'autre. Ben voilà, ça prouve que M. Hurd était un méchant moineau, comme on dit, un bon Québécois. L'autopsie a été pratiquée par le docteur Jean-Marie Roussel, qui a déclaré que la mort résultait des hémorragies cérébrales causées par plusieurs fractures du crâne infligées par un instrument contondant. Évidemment, ici, le marteau. Donc, on voit que les principaux coups visaient la tête. Donc, finalement, la fameuse histoire que l'amant assassin s'était jeté dans l'eau, ben, c'est pas vrai. Donc, c'est une fausse rumeur propagée par les journaux. Parce que, bon, c'est M. Hurd, là, Charles Hurd, qui a été arrêté, donc, le lendemain du crime, le 17 juin. Et il ne s'est donc pas enlevé la vie, il ne s'est pas suicidé, il n'a pas eu le temps. C'est clair qu'il voulait le faire parce que quand on l'a retrouvé pour l'arrêter, il était trempé, donc il s'est jeté à l'eau, peut-être, mais il a réussi à nager quand même et à garder le nez en dehors de la surface de l'eau. Et quand les policiers lui ont mis la main dessus, même s'il était trempé, il a admis avoir passé la nuit dans un cimetière, donc à pleurer auprès de la tombe de sa mère. Alors voilà, on a un conjoint ici assassin, mais que, comme je vous disais, les suicidaires n'ont pas planifié la suite de leur forfait, si on veut. Alors quand ils ratent leur coup au niveau du suicide, bien, on dirait qu'ils savent plus quoi faire, puis là, ils sont désemparés. Donc, souvent, ils se laissent assez facilement arrêter. Et aussi, rapidement, ben, il est passé aux aveux. Et dans sa confession, il a dit qu'il aimait la victime, qu'il ne sait pas pourquoi il avait ainsi soudain décidé de la tuer. C'était comme spontané tout d'un coup. Et il a même ajouté que c'était venu comme une éclair, comme ça. Qu'il avait pris le marteau. Et qu'il avait frappé là, sans réfléchir. En plus de ça, on ne sait pas tout le passé là, avec Elisabeth et les deux familles, mais il a quand même ajouté ce commentaire étrange. J'ai emprunté et j'ai volé pour cette famille. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est comme s'il avait tout fait là, pour cette famille-là. Mais évidemment, ça n'excuse pas le crime qu'il venait de commettre. Là. Par contre, le père de Heard, lui, a mentionné aux policiers avoir eu l'intention de faire examiner son fils en raison de son état mental. Mais le décès de son épouse avait repoussé ce projet. Ouais, c'est évident. Mais la justice, normalement, devrait s'en rendre compte et lui proposer d'être examiné. Et c'est évident qu'à partir de ce moment-là, ben la défense essaierait du moins de plaider la folie. Et c'est ensuite qu'on a appris qu'il avait déjà tenté d'étrangler Elisabeth le 13 juin, donc un petit peu auparavant. Au point où cette attaque lui avait laissé des marques au cou, donc c'était assez sérieux. Finalement, le procès de Heard s'est déroulé au Palais de justice de Montréal du 17 au 21 janvier 1938 devant le juge Wilfrid de Lazur. Lui aussi, on va le revoir souvent, ce juge Lazur, parce que c'est le juge qui a prononcé le plus de sentences de mort au Québec. Évidemment, la défense a plaidé ce qu'on appelait, et je le mets en guillemets, l'aberration mentale. Ah, un nouveau terme. On a parlé de folie toutefois, puis de... C'était quoi donc? De débile mental. On faisait pas de différence entre les deux. Bon, bref. Maintenant, c'est l'aberration mentale. Donc, un mental aberrant ou un... en tout cas. Le jury est sorti du prétoire à 15h30 pour revenir à 19h55. Donc, ça veut dire qu'ils ont délibéré pendant quelques heures. Et à leur retour, ben, ils ont dit « coupable ». Et aussitôt, évidemment, vu que l'accusation était celle de meurtre, le juge Lazur a demandé au condamné s'il avait quelque chose à déclarer. Et Heard a répondu « je n'ai rien à vous dire », tout simplement, comme ça a été le cas de plusieurs condamnés. Et la date de l'exécution a été fixée au 6 mai 1938, mais par contre, il s'est mérité, pas longtemps après, d'une commutation de peine. Donc, il aurait fini ses jours à la prison de Saint-Vincent-de-Paul, où il a été libéré quelque part. Ça, on le sait pas toujours. On reste toujours en 1937, cette fois le 29 octobre, donc quelques mois après le meurtre de la pauvre Elisabeth. Cette fois-ci, c'est une dame un petit peu plus âgée, hein, comme je le disais juste pour faire exprès tantôt que les victimes étaient généralement âgées de 40 ans et moins. Eh bien, celle-ci avait 45 ans au moment du crime. Elle s'appelait Marie-Louise Fournier-Villot. Dans ce cas-ci, c'est un conjoint non suicidaire et il y a eu de la mise en scène. Donc, on va voir que le monsieur a essayé de s'en sortir et que ça n'a pas fonctionné. Ça se passe à Montréal, sur la rue Charlemagne, à 8h44 au matin du 29 octobre 1937. Ces deux citoyens, en fait, là, le restaurateur Michel Carlery et Armand Landry, qui ont découvert le corps de Marie-Louise Fournier-Villot au milieu de la rue Charlemagne à Montréal. Donc, elle était en plein milieu de la rue quand ils l'ont trouvée. Les deux amis, ben, ils ont d'abord cru aux autres que c'était un sac oublié avant de comprendre qu'il s'agissait d'un corps d'une femme. Hein? Méchante, méchante distinction. Mais c'est vrai que des fois, tout dépendamment de la position, c'est pas évident. J'ai jamais découvert de corps humain, mais sûrement qu'on peut le... On peut le pardonner, si on veut. Et selon le journal La Patrie, elle avait le crâne fracturé et sa cervelle était répandue dans la rue. Rien de moins, hein? Ça devait pas être joli à voir. Et considérant qu'il pouvait s'agir d'un accident, évidemment, hein, en pleine rue, donc c'était encore possible à ce moment-là, ben les deux hommes ont contacté les policiers du poste 34. Et c'est le lieutenant Leduc qui a débarqué sur les lieux. Je vous salue, capitaine, lieutenant Leduc, pardon. Lui, en débarquant sur les lieux, il a compris qu'il s'agissait plutôt d'un meurtre, que c'était pas un accident. Et tout de suite, qui est-ce qui l'a contacté? Eh bien oui, l'inspecteur Armand Brodeur, qu'on a vu tout à l'heure, qui était l'oncle d'une disparue, dans le fond. Alors, l'histoire de la ville de Montréal pourra s'en servir, comme on dit, dans son historique. C'est-à-dire qu'il a vécu une affaire non résolue d'assez près. C'était même dans sa famille. Donc, lui, en arrivant sur les lieux, malgré la pluie et l'eau qui ruisselait sur le pavé, il a constaté que les semelles des souliers de la victime étaient sèches. Ah, ah! Pas bête, le monsieur Brodeur. Il y a un fin observateur, comme on dit. La femme portait encore, quand je dis la femme, c'est Marie-Louise, évidemment, portait encore un manteau et un chapeau. Lui, Brodeur, il en a déduit qu'elle avait été assassinée alors qu'elle se trouvait dans une automobile avant d'être jetée dans la rue. Ce qui pourrait expliquer pourquoi elle avait les semelles de ses chaussures chesses. Marie-Louise, ce qu'on a appris plus tard, c'est qu'elle laissait dans le deuil 5 jeunes enfants, malheureusement. Grâce aux papiers qu'elle avait sur elle, mais aussi, ce qu'on dit, on ne dit pas pourquoi, et aussi parce qu'il la connaissait de vue, apparemment, l'inspecteur Brodeur a rapidement identifié la victime, donc ça facilite la chose, comme on dit, on peut rapidement plonger à ce moment-là dans la victimologie. Lui, il s'est souvenu que Marie-Louise, il avait trouvé l'adresse dans sa sacoche. Elle était l'épouse de M. Louis Viau, qui lui était un employé dans les lignes du Montreal Light Heat. Pardon, excusez mon anglais. Montreal Light Heat, donc c'est la compagnie d'éclairage. Et après avoir pris des photos de la scène de crime, les policiers ont expédié le cadavre à la morgue, ce qui est tout à fait la procédure, comme on dit. Ils se sont ensuite rendus à la demeure de la victime, où ils ont trouvé son mari, qui leur a déclaré être sorti avec sa femme en automobile tôt dans la soirée, avec l'intention de faire du magasinage à Rosemont. Ben, lui, il expliquait que c'était ça sa routine, là, avec elle. Il voyait rien de problème dans ça. Sur le chemin du retour, par contre, il a prétendu qu'elle était descendue de voiture sur le boulevard Rosemont pour rentrer à pied. Donc, est-ce qu'il y a eu une chicane entre les deux? C'est pas mentionné. Lui, de son côté, il serait revenu seul à la maison où il avait remisé le véhicule dans le garage. Donc, il revenait à la maison, met l'auto dans le garage et hop, tout est beau pendant que sa femme est toute seule dans le noir en pleine ville de Montréal. Mais Brodeur, lui, a reconnu Viau pour l'avoir déjà interrogé dans une affaire de sabotage de ligne de transmission durant la grève des employés de la Montreal Light Heat. Ah, c'est souvenu, c'est pour ça qu'il s'en souvenait. Ça se passait quelques années auparavant. Et à cette époque, il avait interrogé le mari et la femme. Donc, c'est pour ça qu'il se souvenait de Marie-Louise. Il s'en est souvenu grâce à ça. C'est seulement le lendemain de la découverte du corps de Marie-Louise qu'on a découvert l'arme du crime, le marteau, c'est-à-dire un marteau. Et ce marteau-là se trouvait là, à quelques centaines de pieds du corps dans la rue. Donc, à partir de ce moment-là, là, le scénario a commencé à évoluer plus rapidement. Les détectives, évidemment, y ont compris que Marie-Louise avait d'abord été assommée par un coup de poing dans l'œil droit. Selon leur hypothèse, évidemment, c'est ce qui a été dit à l'époque, c'est à partir de là que l'assassin avait utilisé le marteau avant de la laisser dans la rue, tout en installant sa bourse entre ses mains pour tenter de faire croire à un accident. Donc, si ça est vrai, que M. Viaud, admettons qu'il est avec sa femme, la chicane débloque, comme on dit, éclate, et au lieu qu'elle sorte pour rentrer à pied, selon ce que lui avait dit, paf, il donne un premier coup de poing pour la sonner comme faut, puis après ça, il prend un marteau pour l'achever, finalement, et moi, ça me fait penser que s'il y avait un marteau dans l'auto, est-ce que c'était parmi ses outils habituels, ou s'il avait traîné le marteau spécifiquement ce soir-là pour parce qu'il avait préparé son coup, je sais pas, c'est pas mentionné. Le fait d'avoir placé la sacoche dans ses mains, tout ça, pour faire croire un accident, si ça est vrai, bien évidemment, on a affaire ici à de la mise en scène, parce que monsieur voulait brouiller les pistes. Évidemment, à partir de là, ben, la police possédait suffisamment d'éléments pour pour comprendre que le mari essayait de mener en bateau. Donc, ça collait plus sa version. Et aussitôt, il a été mis en état d'arrestation et accusé du meurtre de Marie-Louise. Le soir même, une perquisition a été effectuée dans sa résidence et il a été décidé aussi de mettre en état d'arrestation une proche voisine sans toutefois révéler son identité. Donc on ne sait pas qui, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'était sa maîtresse? Mystère et boule de gomme. Pendant ce temps, le marteau était remis au docteur Rosario Fontaine. On l'a déjà vu, c'était le successeur de Wilfrid de Durham. Et qui lui, sa job, c'était de tenter de trouver des empreintes digitales sur le manche ou une partie quelconque du marteau. Et évidemment, pour relier l'accusé au crime. Le procès de Louis Viaud s'est déroulé du 9 au 11 mars 1938 au Palais de justice de Montréal, devant le juge, eh oui, Wilfrid Lazur. Commence à être populaire. Suite au verdict de culpabilité, donc, il a été reconnu coupable, notre monsieur. Le juge Lazur, encore une fois, a fixé l'exécution au 17 juin 1938. Mais, le 27 mai, le condamné a obtenu un premier sursis en cour d'appel. À ce moment-là, on a reporté l'exécution au 25 novembre 1938. Mais le 24 octobre, un autre délai a été imposé par la cour d'appel, ce qui lui a donné l'occasion de vivre un petit peu plus longtemps. Et oui, il a vécu, M. Viaud, jusqu'au 20 janvier 1939. Il lui manquait quelques mois à peine avant d'avoir été témoin de l'invasion de la Pologne et du début de la Deuxième Guerre mondiale. Mais bon, bref. Et jusqu'à la toute dernière minute, là, c'est ce qu'on dit. Louis Viaud espérait une commutation de peine, mais au matin du 19 janvier 1939, il y a quelqu'un qui est venu, qui s'est rendu jusqu'à sa cellule et qui lui a dit, ben désolé, tous les espoirs sont annulés, donc tout est terminé pour toi. Il est trop tard, donc demain matin, mon petit pit, tu vas t'envoler au bout de la corde. Et c'est effectivement ce qui est arrivé après avoir mangé ce qu'on décrit comme son dernier repas, et qui était composé d'un steak, de pommes de terre, d'un dessert et d'un café. À 7h45 au matin du 20 janvier 1939, Louis Viaud est monté sur l'échafaud.